On parle dans la théologie classique de Dieu qui est créateur, et en particulier on parle de création ex nihilo, c'est-à-dire d'une création à partir de rien. Cette théorie a été développée, je crois, à partir du Moyen Âge, en fait, les pères de l'Église et ensuite un peu plus tard. Et aujourd'hui, cela semble être pour beaucoup de chrétiens comme un dogme plus ou moins obligatoire, ou tout au moins cela va de pair avec une idée très classique d'un Dieu créateur, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu qui peut faire tout ce qu'il veut dans ce monde, comme il le veut, qui peut gérer les règles et les lois physiques, faire tous les miracles et créer n'importe quoi à partir de rien. A priori, vous vous en doutez peut-être, je suis un peu méfiant à l'égard de cette image de Dieu, et j'ai plus de sympathie pour un Dieu plus intégré dans le monde, une idée de Dieu plus intégré dans le monde, c'est-à-dire d'un Dieu qui n'agirait pas de l'extérieur comme un fabricant pour faire les choses à partir de rien ou comme un artisan, mais plutôt un Dieu qui agit à l'intérieur même du monde, à l'intérieur même des choses, comme une puissance créatrice qui pousse à l'intérieur du monde dans le respect des lois physiques pour, je dirais, être la puissance d'évolution, de complexification et de création du monde. Mais donc cela mérite une enquête plus approfondie. D'abord, du point de vue scientifique, la chose est plus compliquée qu'il n'y paraît. A priori, d'un point de vue scientifique, il ne peut pas y avoir de création à partir de rien. Il faut bien qu'il y ait quelque chose, au moins de l'énergie, pour que la matière existe, et donc, à partir de rien, rien ne peut surgir, ça semble à peu près évident. Mais voilà que la mécanique quantique commence à nous parler de la fluctuation du vide quantique, et nous dit que même dans le vide, si on prend un temps très court, on peut arriver à trouver un petit soupçon d'énergie, et que ce petit soupçon d'énergie peut être transformé en matière, et que donc il y a une sorte de vibration du vide quantique qui, à partir de rien, peut arriver à créer de la matière. Bref, je n'y comprends rien, et je laisse aux physiciens l'art d'essayer de nous dire ce qu'il en est, mais ce qui me semble simplement à moi, d'un point de vue philosophique, c'est que ce vide quantique n'est pas du rien, parce que si c'était du rien, il n'y aurait même pas de loi physique, et dans le rien, il n'y a rien. Et il n'y a même pas d'indétermination d'Heisenberg, ni quelque vibration que ce soit. Un vide qui vibre ne me semble pas tout à fait suffisamment vide pour être un nihil. Passons. Laissons cela de côté, puisque je ne crois pas que la théologie doive interférer dans la physique, et plongeons-nous dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la Bible. D'un point de vue biblique, la chose semble à peu près claire, puisqu'il y a le récit de la création dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et donc apparaît une sorte de création ex nihilo, un Dieu qui crée à partir de rien. Mais en fait, ça n'est pas si clair que ça. Et il semble bien que cette lecture d'une création à partir de rien soit une grille de lecture tardive qu'on ait imposée à un texte qui ne le dit absolument pas. Et en effet, tout le problème même du premier verset de la Bible, c'est de savoir où on met les virgules. C'est-à-dire qu'on peut lire autrement. Certains l'ont proposé en disant « Le au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », c'est le titre de l'affaire. Ensuite, on arrive vraiment à ce qui se passe. La terre était informée vide, et Dieu appela la lumière, etc. Et donc, si on le prend comme ça, cela voudrait dire que Dieu ne crée pas à partir de rien, mais à partir d'une terre qui, au départ, était informée vide. Et en particulier, vous savez évidemment, j'imagine, que ce « informe et vide », ces deux mots hébreux qui sont devenus des mots français, c'est « tohu » et « bohu ». Et donc au début, on a un « tohu-bohu » primordial, et que Dieu va organiser le « tohu-bohu » primordial par sa parole pour progressivement mettre tout ça en ordre et arriver à une certaine création. Et ainsi, on peut très bien lire même dans la Genèse, l'idée d'une création qui ne se fait pas à partir de rien, mais à partir d'un tohu-bohu primordial. Ce que je vous dis ne sont pas des élucubrations, puisque même la traduction écuménique de la Bible, qui n'est pas considérée comme fantaisiste, a traduit ainsi dans le premier verset: « Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était informe et vide. » C'est-à-dire que la Tob, la traduction écuménique elle-même, avait opté, je dirais, contre la création ex nihilo, en tout cas dans ce verset de la Genèse. Alors, donc, on n'en sait pas plus. Mais quelle importance, après tout, quelle importance? Eh bien, en fait, je vais vous dire, ça en a beaucoup. Et ce ne sont pas que des élucubrations intellectuelles de théologiens. Il y a là-dedans de véritables enjeux. Pour plusieurs choses. D'abord, pour le statut physique du monde. C'est-à-dire, que vaut le monde matériel? Il est bon ou il n'est pas bon? Il est divin ou il n'est pas divin? Il est pour Dieu ou contre Dieu? Ça, c'est une vraie question. Et d'autre part, ça se joue aussi dans la question de notre propre place dans ce monde. Et puis également, ça pose une troisième question, qui est que quand on dit que Dieu est créateur, ça n'est pas tant pour s'intéresser aux premiers instants de l'univers, qui finalement ne change rien pour nous, mais c'est de savoir comment Dieu est aujourd'hui créateur et comment aujourd'hui il agit dans le monde. Et là, il y a une vraie question qui nous intéresse, pour peu que nous voulions croire en Dieu. Alors d'abord, sur le statut du monde physique et de la création, de la créature, du monde matériel. La chose est délicate. La chose est délicate. Parce que si l'on croit dans un Dieu vraiment créateur ex nihilo, alors il faut croire que le monde physique est absolument son projet comme il l'a voulu et comme il l'a fait. Et alors se pose le problème du mal. C'est-à-dire que si Dieu vraiment a tout créé à partir de rien et que ce monde est vraiment son œuvre telle qu'elle, eh bien moi je vais vous dire, j'ai quelques récriminations à faire. Parce que je trouve que ce monde, il a quand même de nombreux défauts. Et si Dieu m'a créé vraiment et que je suis l'œuvre moi de sa propre volonté, pourquoi est-ce que je souffre de maux de tête? Il aurait quand même pu faire en sorte que je ne souffre pas de cela. Et cela n'est rien, évidemment. Il y a bien d'autres douleurs, bien d'autres souffrances, bien d'autres maux dans ce monde qui sont inacceptables si c'est Dieu qui les a créés et voulu ainsi. Et donc je crois que cette notion un peu simple de la création ex nihilo est, à mon avis, incapable de nous donner une réponse satisfaisante au problème du mal, et en tout cas de notre souffrance. Ou alors ce Dieu créant ex nihilo est un Dieu sans cœur, et je ne veux pas croire en cela. Mais si jamais on dit qu'on bascule de l'autre côté, et on va dire d'accord, alors Dieu n'est pas le créateur du monde physique, mais il y a un monde physique qui est comme il est, avec du mal, des imperfections, avec de la souffrance, et Dieu se bagarre dans ce monde pour essayer d'améliorer les choses et de le pousser vers plus de bien, alors on risque d'aller dans le dualisme. C'est-à-dire avec deux principes dans ce monde, un Dieu bon et une matière mauvaise et vicieuse, et que Dieu serait en lutte contre un monde mauvais pour essayer de l'améliorer. C'est la théologie antique grecque dualiste, c'est ce que l'on trouve dans le Timée de Platon en particulier, et à ce moment-là, ça voudrait dire que notre vie devrait être de se bagarrer contre un monde physique pour l'empêcher de s'exprimer, et la création de Dieu serait une lutte contre ce monde physique mauvais, et autrement dit, il faudrait abandonner le monde matériel, nier, refuser, refouler tout le monde matériel qui serait l'image du diable pour s'élever vers Dieu qui serait l'esprit. C'est presque pire que la solution précédente, je vous l'avoue. Cela dit, c'est un peu la tentation moderne. Et je crois que la traduction écuménique, quand elle nous pousse vers l'idée d'un monde désordonné, préexistant à la création de Dieu, finalement, va dans le sens du courant d'aujourd'hui, où on a tendance, effectivement, je dirais, à accepter de moins en moins bien la nature. Et ça, je l'observe un peu partout, et ça me dérange, pour tout vous dire. Par exemple, il faut bien avouer que, à force de devenir des êtres civilisés, à force de vivre dans des villes, la dimension animale de notre existence est de plus en plus refoulée. Et nous voudrions vivre comme des esprits purs et parfaits, et finalement tout ce qui touche au corps, en quelque sorte, nous dérange. Et donc nous nions de plus en plus notre dimension naturelle et corporelle. Et quand on considère l'être humain aujourd'hui, ok, on veut bien que ce soit un être humain et un animal, mais surtout, pas d'odeur, pas de poils, pas de maladie, pas de faiblesse. Donc on couvre tout ça et on vit dans une sorte d'idée que nous serions de purs esprits. Et quand quelqu'un meurt, eh bien on dit « Ah, mais c'est un drame, une catastrophe, une honte, un scandale ». Mais vraiment, c'est étonnant, cette négation de la dimension physique de notre être. Ce n'est pas vrai. La mort n'est pas un scandale, la maladie n'est pas une monstruosité, et même les écologistes, aujourd'hui, ont une vision complètement romantique de la nature. Les écologistes, finalement, qui s'opposent, c'est étonnant, à la chasse, qui est la chose la plus naturelle qui soit. Comment peut-on imaginer une nature, finalement, adore une sorte de nature qui est totalement inventée? Une nature dans laquelle les lions ne mangeraient pas les gazelles, les chiens ne mangeraient pas les chevreuils ou autre chose. Et donc nous voulons de plus en plus une nature dénaturisée. C'est tout juste si on accepte de manger de la viande, mais à condition surtout qu'on ne voit pas ce qu'on mange. Et finalement, tout cela me semble un peu dangereux, parce que nous finissons par opposer, je dirais, la matière à l'esprit. Et nous finissons par oublier que la création elle-même, que le monde matériel lui-même, n'est pas un ennemi, n'est pas quelque chose contre lequel il faudrait lutter, mais que le monde matériel, eh bien, fait partie aussi du projet créateur de Dieu. Et donc le monde matériel est bon comme ça, et que finalement, le monde matériel n'est pas l'ennemi de Dieu, mais il est tout de même sa création, en quelque sorte. Donc vous voyez, dans les deux côtés, il y a des dangers de dérive et qu'il faut avoir une théologie assez subtile de la valeur du monde matériel. Parce que le monde matériel, je dirais peut-être qu'il n'est pas directement tout voulu par Dieu comme ça. Je veux bien le croire qu'il y ait dans le monde matériel des imperfections. Mais néanmoins, la théologie biblique a toujours été formelle pour dire que fondamentalement, le monde matériel est bon et qu'il correspond à la volonté de Dieu. Pas dans les détails, d'accord, il y a des choses à améliorer, mais fondamentalement, le monde matériel n'est pas opposé, je dirais, au projet de Dieu. Et quant à la matière, elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est un matériau de construction et c'est à nous de faire avec. Mais si ce monde matériel fait partie de la création, et je le crois, cela ne veut pas dire qu'il en soit le but. Et justement, la théologie biblique nous montre qu'il faut aller au-delà. Et d'ailleurs, la Genèse elle-même, vous savez, quand elle parle de la création de l'homme, dit que l'homme est mis dans le monde pour le cultiver et le garder. Et donc le monde est confié à l'homme comme un lieu d'action, et non pas comme une sorte de paradis dans lequel il devrait s'installer pour en profiter. Et donc voilà, voyez-vous, c'était la première question. Ensuite, cette question ne se pose pas simplement à propos des commencements. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui s'est passé dans les commencements n'est pas très important. Et même si les physiciens nous disent que le monde matériel n'a pas eu de début, mais n'est que le rebond d'un univers préexistant, aucune importance. Cela ne nous concerne pas. Et je ne suis pas le premier à le penser. Vous savez que toutes les questions de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ou avant la création du monde sont de mauvaises questions. Les physiciens nous le disent, et Luther lui-même le disait, quand on lui demandait « Que faisait Dieu avant la création du monde ?» il répondait « Il coupait des branches, des baguettes de bois pour fouetter celui qui poserait cette question. » C'est-à-dire que Luther lui-même avait bien vu que cette question du commencement du monde est une question sans intérêt. La seule chose intéressante, c'est de savoir comment aujourd'hui Dieu agit dans le monde. Et là, il y a aussi des enjeux. Parce que si l'on croit dans un Dieu créateur ex nihilo, alors on va croire que Dieu est quelqu'un qui peut intervenir dans le monde à partir de rien, c'est-à-dire il peut faire n'importe quoi à partir de n'importe quoi. Et sinon, ce qui est plutôt ma tendance, un Dieu plus intégré à la création, je crois, moi, que Dieu peut plutôt intervenir dans le monde à partir de ce qui est, pour l'améliorer, pour le transformer, pour le transfigurer, en quelque sorte. Et je pense que c'est d'ailleurs plutôt la tentation, la tendance générale de la Bible. Mis à part les premiers versets, Dieu ensuite, sans cesse, dans la Bible, n'arrête pas d'organiser, de transformer et d'améliorer l'existant. Et je crois que le sens de l'évolution, c'est ça, c'est que Dieu prend la base et essaye de l'amener quelque part et de lui donner une nouvelle dimension. Et Dieu, même dans l'évolution, transforme, je dirais, le végétal en animal, transforme l'animal en mammifère, et le mammifère en singe, et le singe en être humain. Et cet être humain, Dieu encore le prend et il en fait le Christ. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt dans une création qui se fait à partir de quelque chose et qu'il essaye d'amener à un état supérieur. Et même Jésus, quand on regarde comment il agit, eh bien, il ne fait jamais surgir quoi que ce soit à partir de rien. Il guérit des malades, et même il change de l'eau en vin. Il ne fait pas surgir du vin comme ça, plop, à partir de rien, mais il transforme l'eau en vin. Et même la multiplication des pains, texte évidemment symbolique, mais la multiplication des pains, Jésus ne fait pas surgir des pains à partir de rien. Il le fait à partir des 5 pains qui ont été fournis au départ. Et donc je vois, moi, dans l'Évangile, qu'il faut qu'il y ait une base à partir de laquelle Dieu puisse agir. Et si nous voulons que Dieu agisse dans notre vie, puisque le chrétien attend ça, il se dit « Dieu doit amener quelque chose dans ma vie, doit créer en moi quelque chose de neuf », eh bien il faut apporter l'eau pour qu'il la transforme en vin. Je dois apporter les 5 pains pour qu'il et les 2 poissons pour nourrir la foule. Et je dois apporter un embryon de bébé Jésus dans ma foi pour qu'il le transforme dans une foi entière et vive et complète. Et je pense que c'est ça l'action de Dieu dans nos vies. Il ne s'agit pas d'attendre en se disant « Dieu va tout à coup faire surgir devant moi des réalités qui n'y étaient pas avant ». Mais Dieu peut transformer le vulgaire en noble, la tristesse en joie, le deuil en danse, la mort en vie, le mal en bien. Donc Dieu est une force de transformation, je le crois, et du coup c'est responsabilisant pour nous. Il faut qu'il y ait un point de départ, une accroche pour Dieu. Et si au départ on n'a rien, pas de questions, pas d'attente, aucune, je dirais, rien, eh bien Dieu ne pourra rien apporter. Alors qu'apportons-nous à Dieu pour qu'il le transforme? C'est, je crois, le sens de la vie spirituelle et même de la prière. La prière, ce n'est pas de réclamer que Dieu fasse tomber des choses du ciel, mais la prière, c'est présenter à Dieu sa vie, présenter à Dieu ses manques, ses tristesses, ses angoisses, ses réussites, ses joies, ses peines, ses attentes, et c'est présenter à Dieu pour qu'il les transforme, et qu'il les transfigure, qu'il les renouvelle, et qu'il y agisse, qu'il les transmute en quelque sorte. Ça me plaît assez tout ça. Mais pourtant, cette vision me semble un peu insuffisante en y réfléchissant plus. Et finalement, je n'ai pas voulu m'arrêter là. Parce que ce que je viens de présenter, finalement, fait de Dieu une sorte de réparateur du monde, une sorte de perfectionnisateur. Ça existe, je ne sais pas comment on dit. Enfin, quelqu'un qui apporte juste la final touch à quelque chose d'un peu imparfait. Celui qui arrive, il met la cerise sur le gâteau. Dieu serait une sorte de bricoleur du monde matériel. Mais je pense que c'est un peu insuffisant et que Dieu n'est pas là juste pour réparer les failles du monde matériel et que Dieu, on ne peut pas faire une théologie, je dirais, de Dieu en disant que la théologie biblique serait en quelque sorte l'art d'accommoder les restes. Ça ne me semble pas suffisant. Donc je crois que Dieu est plus important que ça, quand même. Et je crois que son œuvre est plus essentielle. Et cela parce que je pense que le monde matériel, finalement, n'est ni bon ni mauvais. Je dirais qu'il est à peu près rien, qu'il est nul. Je dirais, un rat d'égout, c'est le monde matériel, un rat d'égout, c'est nul. Voilà, c'est rien, ça ne me préoccupe pas du tout. Et je pense que le monde matériel est peu de choses, et que par conséquent, ce que apporte Dieu, c'est plus que d'améliorer un peu les choses, si vous voulez. Il y a une sorte de rupture symbolique. Quand Dieu intervient dans le monde matériel, on passe à quelque chose d'autre, si vous voulez. Et qu'un être humain, ce n'est pas un singe avec quelques grammes de cerveau en plus. Le passage du singe à l'être humain, il y a une rupture radicale, totale et complète. Ce n'est pas juste de rajouter une petite touche en plus. Et on le voit d'ailleurs quand je reprends ce passage symbolique de la multiplication des pains. Certes, Jésus va transformer 5 pains en je ne sais pas combien pour nourrir 5 000 hommes, mais en fait, 5 pains pour 5 000 hommes, ce n'est pas peu, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et donc, c'est à partir de rien, il nourrit une foule entière en quelque sorte. Et c'est peut-être ça l'idée géniale de la création ex nihilo, à partir de rien. C'est de dire que la création de Dieu, ce n'est pas d'améliorer un peu les choses, c'est que ce qu'il y a sans lui, c'est à peu près rien. C'est tellement insignifiant que c'est rien. Et donc ce n'est pas qu'un Dieu n'apporte pas qu'une différence de degré, il apporte une différence de nature. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que Dieu crée à partir de rien. Parce que ce qui compte, c'est bien le résultat de son œuvre. Ce qu'il y avait au départ est totalement insignifiant. Et même s'il y avait un tohu-bohu primordial, admettons. Mais je dirais moi que symboliquement, le commencement du monde, l'origine du monde, ce n'est pas la soupe primordiale. La soupe primordiale et le tohu primordial, ça n'est rien. Le commencement du monde, c'est le Créateur, c'est l'œuvre du Créateur. C'est ça qui fait quelque chose, parce que le monde, il est créé, je dirais, par Dieu. Et ce qu'est le monde, il doit tout à celui qui a, ou à celui ou au principe, à ce que vous voulez, mais qui a finalement fait ce qui est aujourd'hui. Et ce qui précédait avant, ce tohu-bohu primordial, il n'est rien, en fait rien. Le matériau de base n'a aucune importance. Ce qui a du sens et de la beauté, c'est ce qui a été fait, c'est la création. De même que si vous prenez un tableau d'un grand maître, ce qui compte, ce n'est pas la pâte à peinture qu'il a utilisée. Vous pouvez dire, voilà, il a dépensé 3,50 € de pâte à peinture, et c'est ça l'origine du tableau. Non, le tableau, il a été fait à partir de rien, et simplement, il est l'œuvre du génie de celui qui l'a fait. Et c'est ça que je veux dire. Et je crois que dans nos vies, c'est pareil. Dieu, certes, utilise ce qu'il y a dans nos vies pour en faire avec nous quelque chose, mais finalement, ce qui compte, c'est seulement ce que Dieu a fait. Et je dirais que ça va tellement loin que, quand je disais, en fait, voilà, il faut apporter des choses pour que Dieu les améliore, je n'étais pas beaucoup plus malin que les fables de La Fontaine. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je crois que la création de Dieu peut être beaucoup plus radicale que ça. Et que, finalement, l'œuvre de Dieu ne dépend même pas tellement de ce qu'il y avait au passé ou de ce qu'il y avait avant. Et par conséquent, nous ne sommes pas englués dans le passé. Nous ne sommes pas englués dans une sorte de situation qu'il faudrait essayer de dépatouiller, si vous voulez. Mais Dieu peut faire toute chose nouvelle dans nos vies. Ça, c'est l'affirmation de l'Apocalypse. Le point d'origine ne compte pas. Le futur ne se déduit pas du passé. Mais le passé, aujourd'hui, il n'est plus. Il n'est plus rien. Et sans arrêt, dans l'Évangile, Jésus nous invite à nous considérer comme libres par rapport au passé. Je fais toute chose nouvelle. Ne vous tournez pas en arrière. Et quoi que vous ayez été, l'avenir est possible. Et Dieu peut créer en vous une vie nouvelle et peut créer du neuf en vous, quel que soit le passé. Donc, je dirais bien, oui, Dieu crée à partir de rien. Il ne tire pas les fils d'une dépendance par rapport au passé, d'un lien entre le passé et le futur, mais c'est vraiment une nouveauté radicale qui intervient dans ce monde. Et en ce sens, finalement, je me distancierai, vous savez, de ce courant théologique que j'aime beaucoup par ailleurs, de ce qu'on appelle la théologie du process, qui justement veut faire une théologie à la remorque de la science, en disant tout est processus, tout est évolution, et le monde, la science nous montre un Dieu, la science nous montre un monde en évolution, et de dire Dieu, c'est cette espèce de puissance qui pousse le monde à évoluer. Il y a un processus, mais non, je ne crois pas. Je crois que la création n'est pas un simple processus. C'est pas assez radical pour moi. Il y a quelque chose de bouleversant, je dirais, dans la création et dans ce que Dieu apporte dans une vie, simplement, même au niveau de ce que l'on peut expérimenter soi-même. Et je dirais qu'il n'y a donc dans ce monde, finalement, qu'un seul commencement, qu'une seule origine, qu'un seul principe. Il n'y a pas deux sources, le monde matériel et Dieu qui interviennent en se bagarrant l'un l'autre. Un seul principe de vie, un seul principe de ce qui est et qui compte vraiment, c'est Dieu. Alors, si vous ne croyez pas en Dieu, dites simplement que le seul principe de la vie, bien, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'espérance, et c'est l'invisible, c'est le spirituel, en quelque sorte, le métaphysique. Il n'y a qu'une seule source de vie, de bonheur, de joie et d'éternité, c'est Dieu. Tout le reste, c'est néant. C'est du rien qui retourne au rien. C'est de la poussière qui retourne à la poussière. Et le tout, c'est de savoir en quoi on met sa confiance. La création de Dieu, c'est du domaine du spirituel. C'est une dimension nouvelle qui fait basculer dans une autre dimension, qui sort du matériel, qui sort de ce matériel passager pour aller dans un autre domaine qui est celui de l'éternité. Sans Dieu, sans signification, sans sens, sans valeur, sans esprit, eh bien le monde n'est qu'une chose absurde, un rien qui retourne au rien. Le spirituel, lui, c'est justement cette dimension qui peut s'attacher à ce peu de choses matérielles et qui peut accéder à l'éternité. Et c'est ça le cadeau de Dieu, que nous puissions accéder à cette dimension transcendante qui nous est offerte par grâce. Et donc finalement, oui, avec toutes les précautions d'usage, comme on dit, je pense que cette vieille thèse de la création ex nihilo ne me semble pas si idiote que ça, parce que je peux dire que moi, sans Dieu, je serais rien. Sans lui, ou quoi que vous mettiez derrière, sans lui, ma vie n'aurait aucun sens. Et sans Dieu, je ne serais qu'un amas de cellules tentant de survivre pour quelques années absurdes. Sans dimension spirituelle, je ne serais rien de plus qu'un rat d'égout ou qu'un mammifère évolué. Passionnant. Sans lui, je ne sais même pas si j'aurais la force de continuer à vivre. Le monde même, sans Dieu, n'aurait aucun sens. À quoi servirait-il de vivre ? À quoi servirait-il de se battre, de survivre, de souffrir, de faire des enfants, peut-être de les voir mourir? À quoi servirait-il de prêcher? À quoi servirait-il de créer, de bouger, d'agir, de gagner de l'argent? À quoi? À rien, à rien. Tout cela tomberait dans l'absurde et le non-sens. Et je crois que justement, La seule chose qui donne du sens est en dehors du monde matériel. Et c'est ça que nous appelons Dieu spirituellement, c'est le non-matériel, de passer dans une autre dimension, dans cette dimension de l'invisible. Et c'est cette dimension-là, cette dimension que j'appelle de spirituel et que j'appelle Dieu parce que, voilà, je n'ai pas peur de ce mot-là, eh bien c'est cette dimension-là qui est la seule chose qui puisse donner du sens, qui donne du sens, qui donne un projet, qui donne une mission, qui dépasse ma petite importance ou non-importance individuelle. Oui, je crois que le monde n'a finalement pas de sens sans la puissance divine. Le monde matériel n'est pas un autre Dieu en face de Dieu, mais le monde matériel, c'est une création. Une création passagère, comme l'échafaudage d'une maison. Et c'est une création qui est faite pour l'homme, parce que l'homme est fait pour travailler dans ce monde, pour y créer quelque chose qui vaille la peine, qui vaille un peu plus que cette dimension matérielle et qui est de l'ordre de l'amour et de l'espérance et de la paix. Finalement, je crois bien que la vie humaine, dans ses profondeurs, est inexplicable sans Dieu. Les sciences le décrivent, mais pourquoi c'est comme ça et pas autrement, nous n'en savons rien. Et ce que nous dit la parole divine, c'est qu'il y a du sens, que nous sommes sur terre pour quelque chose et qu'il y a justement un quelque chose qui est au-delà du visible et que chacun a une importance en tant que tel dans ce monde, chacun a un rôle, une mission, une valeur et que c'est en Dieu lui-même que nous trouvons ce qui est vraiment pour l'éternité à partir de rien. Amen. Thank you.